against some mad bugger's wall. L'écran radiophonique, Radio Canut vous présente un scénario original de Junier Jean-Pierre, Marraine. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Enfin, l'enfant est sorti. La sage-femme dit à Marraine : c'est un garçon. Il ne manquait plus que ça. Quoi qu'il les déteste. Elle s'approche du lit de Félicie, qui est faible et en sueur. Comment te sens-tu ?
Je veux voir le petit.
Marraine hausse ses épaules. Pourquoi faire ? C'est un garçon. Et puis on ne les garde pas.
Je veux le voir.
Marraine fait signe à la sage-femme qui lui porte son enfant enroulé dans un linge. Félicie le regarde. Elle est surprise et émue. Elle est toute surprise d'avoir fait sortir ce petit être de ses entrailles.
Mignon, avec ses petites mains.
Marraine hausse ses épaules et dit : et un petit zizi.
Je crois qu'il sourit.
Elle l'a prise dans ses bras. Il gigote. La sage-femme veut le lui prendre. Avant de le lui donner, elle lui donne un baiser. Marraine lui dit : viens te laisser te reposer maintenant que tu es propre. Verrons demain pour les choses sérieuses. Et la sage-femme et elle sortent de la chambre. lendemain matin, une fois qu'elles se sont occupées du bébé et de la mère, ma reine va s'asseoir sur une chaise à côté du lit. Tu vas mieux ?
Oui, mais je suis encore faible.
Ça te passera. Es-tu en état de m'écouter ? De parler de choses sérieuses ?
Oui, je crois.
Très bien. Tu sais que pour une famille, un enfant bâtard, c'est le déshonneur. Donc, j'ai décidé une chose très sage. C'est de déposer l'enfant aux enfants trouvés. Personne ne le saura. J'ai payé la sage-femme une bonne somme. Qu'en penses-tu ?
Je ne veux pas.
Tu ne veux pas et pourquoi ?
C'est mon enfant, je veux le garder.
Tu sais ce que cela signifie pour nous tous ?
Oui.
Tu n'es qu'une égoïste.
Félicie se met à pleurer et crier. Je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Où est-il ?
Arrête de crier comme ça. Tu m'énerves. Je vais te le chercher, ton enfant. Tu me déçois. Il n'y a rien à tirer de toi.
Elle se lève, sort de la chambre pour aller chercher l'enfant.
Toute la journée, ma reine réfléchit dans sa chambre en marchant à grandes enjambées. Mon Dieu, que faire ? Le déshonneur est d'entrer dans notre maison et n'en sortira pas.
À la fin de la journée, elle entre dans la chambre de Félicie comme une furie. S'approche du lit et lui dit
« Puisque tu veux ton enfant, tu le garderas, mais sous certaines conditions. Et sur ces conditions, je serai intraitable. Tu m'entends ? Intraitable. Écoute-moi bien. Nous lui ferons croire et aux autres, si l'on peut, pour les autres, qu'il est ton frère. Ta mère aura accouché quelques mois avant de mourir et l'enfant a été mis en nourrice. Nous le mettrons en nourrice jusqu'à ce qu'il soit sevré. Lorsqu'il reviendra avec nous, ce sera ton petit frère. Il faudra que tu le traites comme si c'était ton petit frère. Il saura que sur les papiers de la mairie, où il sera officiellement ton fils. Tu m'entends bien ? Tu devras le traiter comme ton frère. Ce sera que sur les papiers de la mairie où il sera ton fils. Rien que sur les papiers. Ensuite, il faudra racheter ta faute. Nous verrons plus tard. Tu te mets dans de grosses difficultés. Ou tu acceptes, ou je le mets aux enfants trouvés.
J'accepte. Je te remercie, ma reine.
Ma reine sourit et l'embrasse sur le front, en lui caressant les cheveux.
C'est bien, ma petite. Tu es ma préférée, tu sais. Remets-toi vite.
Je me sauve. Il faut que je cherche une nourrice. Elle se dirige vers la sortie.
Félicie lui dit, avant qu'il ne parte, je veux le revoir encore une fois.
Bien sûr, bien sûr. Je ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Je te l'amène.
Ma reine en charrette fait les visages environnants pour trouver une nourrice. Il demande de ci, de là, voit quelques filles. En réalité, elle cherche une nourrice qui pourrait, par son laisser-aller, envoyer l'enfant au paradis des anges. Enfin, elle trouve dans un hameau une fermière qui habite une masure. Masure, voire de fumée à l'intérieur, au sol à même la terre. Elle a déjà 50 ans, en a perdu un en couche. Son mari fait le marché pour vendre des légumes et rentre tous les jours. La femme est plutôt forte, les cheveux blonds, mal peignés, habillée d'une blouse grise sale. Dehors, à côté de la maison, il y a un bac en bois avec une planche pour la lessive et un étendage. À l'intérieur de la maison, les enfants sont à même le sol à jouer. Ils sont noirs et sales. Les poules courent autour d'eux. Ma reine a vu que cette femme ne pouvait pas s'occuper du petit comme il faudrait. Le marché est conclu. On s'est mis d'accord pour le prix. Avant de donner l'enfant à la nourrice, on le fait baptiser à la maison. Ma reine a décidé de lui donner comme prénom Emmanuel parce que ça fait pour les deux sexes. Puis, l'enfant est parti avec ma reine chez sa nourrice. Retour, ma reine a fait venir vers elle les sœurs et leur a dit « Pour éviter la honte de la famille, Emmanuel sera votre petit frère. Vous m'avez comprise ?» Rosalie demande « Mais qui sera sa maman ?»« Sa maman, c'était ta maman. Et elle est morte. Voilà. » Les jours passent. Ma reine soigne toujours Félicie qui se remet petit à petit. Mais une grande mélancolie s'est emparée d'elle. Elle n'a goût à rien et pleure tout le temps. Tout le temps. Un jour, ma reine entre dans sa chambre. Elle la voit pleurer au fond de son lit. Elle s'approche d'elle, se penche, lui prend le visage dans les mains. « Que tu, ma petite ?» Elle l'embrasse tendrement sur les joues. « Tu es toute belle, toute douce, mon petit ange !» Elle lui donne des baisers de plus en plus rapprochés vers les lèvres. Elle lui caresse le cou et dit « Ah, que mon petit trésor-là souffre à cause d'une brute d'homme !» Félicie sanglote et dit « Je les déteste !» Ma reine sourit « Que tu es belle !» Elle lui descend les bretelles de sa chemise de nuit et lui caresse les épaules. « C'est du vrai satan. Comment ces brutes peuvent-ils apprécier cela ? » Elle lui embrasse ses épaules. Félicie se détend et soupire. Marraine soulève le haut de la chemise de nuit pour voir les seins. Ils sont magnifiques. Elle lui ordonne un petit baiser à chacun. Puis, d'un coup, elle soulève les couvertures et le drap. Et hop, elle est couchée à côté de Félicie. Elle se penche et l'embrasse sur la joue.
Ils seront mieux ainsi.
Puis elle la plaque contre sa poitrine.
Je sais ce qu'il te faut. Il n'y a pas que les hommes qui puissent te l'offrir. On peut tout aussi bien le remplacer avec un doigt.
La reine dépose Félicie à côté d'elle et sous les couvertures, elle se déshabille et jette ses vêtements hors du lit à terre.
Ils seront mieux ainsi.
Elle soulève les draps et couvertures pour se montrer nue. Félicie la voit, maigre, blanche, les seins menus, une abondante toison dans le bas-ventre. Félicie est attirée par cette toison qui a l'air au milieu de ce blanc d'être un trou noir.
À toi maintenant.
Elle lui enlève sa chemise de nuit et la jette à terre. Puis elle se plaque contre Félicie, l'embrasse, la caresse. Puis avec la langue, va de haut en bas. En bas, elle touche les poils, les baise, lui touche la chatte. Félicie frémit. Alors elle lui écarte les jambes, les soulève et à l'aide d'un doigt, elle s'introduit en faisant le mouvement d'avant en arrière. Félicie l'y aide en prenant sa main qui a le doigt à l'intérieur d'elle. Les deux femmes sont en sueur. Elle jouit. Ma reine. Ma reine enlève son doigt et se couche sur elle. Félicie lui caresse ses cheveux. Elle reste un moment comme ça, sans se parler ni bouger. Le jour commence à baisser, la pièce s'assombrit. Puis ma reine se soulève, sourit, lui donne un baiser sur la poitrine. Ça t'a plu ? Félicie fait oui de la tête. Je dois descendre pour le repas. Elle sort du lit, trempe son doigt dans un broc. Se rhabille. Félicie l'a vu faire. Marelle lui lance sa chemise de nuit.
Remets-la. Les nuits sont fraîches.
Puis, elle sort. Félicie reste un moment allongée, nue sur le lit, à se demander pourquoi elle s'est laissée faire. Je n'aurais jamais dû accepter ce que ma reine me fait. Que s'est-il passé? J'avais besoin, tellement besoin d'oublier tout ça. Je hais les hommes et en même temps j'ai besoin de ce qu'ils nous apportent. Maintenant je sais que je peux m'en passer définitivement. Les hommes ne sont que des goujats, menteurs. Comme ma reine. Elle met sa chemise de nuit, se sent bien et s'endort. Tous les après-midi, Marraine va la rejoindre dans sa chambre. Cela commence toujours par des baisers enflammés et se continue comme la première fois. Félicie y a pris goût et attend avec impatience le moment où elle se retrouve. Elle est de plus en plus soumise à Marraine, car Marraine lui apporte un plaisir intense. Un matin, elle est complètement guérie et se lève. Mais cela ne l'empêche pas qu'elle aille dans sa chambre en fin de journée. Une heure avant le repas du soir et que Marraine aille la rejoindre. L'excitation de l'attente, la peur qu'elle ne vienne pas, le plaisir fait croire à la longue à Félicie qu'elle aime vraiment Marraine parce qu'elle ne peut se passer d'elle. Marraine est heureuse, elle est arrivée à ses fins, une fille à elle, à sa disposition. Elle est plus vieille, connaît la vie, les troubles humains, et sait qu'elle ne l'aime pas, mais elle a besoin d'elle pour assouvir ses instincts. Les sœurs ne se rendent compte de rien. Le temps passe. Marraine a de temps en temps des nouvelles du petit Emmanuel. Elle le dit à Félicie, qui s'intéresse toujours à lui. L'enfant se porte bien. Mais Marraine attend toujours la nouvelle du décès du petit. Malheureusement, la nourrice est attachée à cet enfant, plus qu'au sien. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est plus vif, affectueux, il comprend très vite et puis il a de beaux yeux bleus. Alors elle le soigne, le bichonne plus que les autres et l'enfant profite, grandit, embellit. Et lorsque Marraine vient le prendre, car la nourrice va déménager et changer de région, elle retrouve un bon gros bébé plein de vie. Cela l'a irritée et est partie sans dire merci à la nourrice. Arrivée à la maison, elle le montre à Félicie. Tu as vu comme il a bien profité ? N'oublie pas, c'est ton petit frère. L'enfant est mis dans la chambre de Marraine, qui va s'occuper de lui avec Félicie. C'est Félicie qui le nettoie, car Marraine ne supporte pas de voir cet enfant nu. Il est dégoûtant avec son machin. Elle l'habille avec des robes, des bonnets. Une fois déguisé, si l'on veut, avec le nom Emmanuel, on peut croire que c'est une fille. C'est plus convenable ainsi. Beaucoup plus convenable. Ce qui fait que les trois femmes ont pris l'habitude de le voir au féminin. Et en grandissant, lui aussi, prend les mêmes mimiques que ses sœurs. Marraine commence à se lasser de Félicie et regarde Marie, qui est une belle jeune fille. Bien sûr, par devoir, elle va toujours dans la chambre de Félicie faire son devoir conjugal, comme le ferait par devoir un bon mari qui l'ignorait aussi la bonne. Pendant la journée, elle est toujours près de Marie, à lui parler, caresser les cheveux, la prendre par la taille, lui donner des baisers et même lui caresser les seins. La pauvre fille n'y voit rien de gênant. C'est des petites affections qu'on se fait entre amis. Mais Félicie la voit, la surveille, est jalouse, car elle sait. Un jour, n'en pouvant plus, dans les escaliers, elle gifle ma reine.
Qu'est-ce qui te prend?
Je ne suis pas aveugle. Tu fais rien de mal. Puis nous ne sommes pas mariés. Si tu veux pour moi toute seule, tu te passeras de moi.
Félicie panique. Adieu le plaisir en chambre. Et puis elle croit aimer ma reine.
Elle baisse ses yeux, se plaque contre le mur. Marine sourit.
C'est bien ça, ma petite.
Pousse sa main sous ses jupes jusqu'en haut des cuisses.
Attends-moi en haut.
J'irai tout à l'heure. Elle descend tandis que Félicie monte.
Ma reine lave le dos de Marie, qui est assise à genoux dans le bac en bois. Elle lui lave le dos et descend aux fesses et les caresse bien en mettant un doigt jusqu'à l'ouverture du trou.
Mais ma reine, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je m'y connais en plaisir et pour en donner.
Elle lui enfonce un petit peu les doigts dans l'anus.
Ça te plaît?
Oh, ma reine! Ma reine!
Je sais y faire dans tous les trous, ma petite. Et là?
Oh, non, surtout pas là!
Ma reine a bien enfoncé son doigt dans la chatte. Tu vois? Je sais bien faire les mouvements. Moi aussi.
Oh, ma reine, ma reine.
La fille jouit. Ma reine enlève son doigt.
Ça t'a plu, ma toute belle?
Elle lui caresse ses seins.
Oh, vous alors? J'aurais jamais cru ça de vous. Oh, ma...
Marie ne prend pas ça bien au sérieux. C'est comme un jeu et elle accepte ce jeu à chaque fois qu'elle se lave. Félicie est jalouse, mais cache sa jalousie. Elle a peur de mettre en colère ma reine et qu'elle ne vienne plus dans sa chambre. Elle n'ose pas la montrer à sa sœur car cela dévulgrait ses ébats avec ma reine. Ma reine est heureuse. Elle en a deux en attendant d'avoir trois plus tard. La vie se fait de plus en plus en vase clos. Les trois femmes sont très occupées par leurs désirs. Rosalie et Emmanuel sont laissées à eux-mêmes. Emmanuel grandit et malgré ses habits de fille, son instinct de mâle le pousse à une vie plus indépendante.
Dès l'âge de 6 ans, il se met à courir dans le jardin en cherchant à attraper les oiseaux.
À 7 ans, il faut changer son éducation. Ma reine dit à Félicie,
nous allons l'inscrire à l'école du village. Mais comme sur ses papiers, il est de sexe masculin, l'habillerons en garçon.
Attention, il sera toujours ton frère. Et un matin,
Emmanuel, habillé en petit garçon, cela ne le surprend pas et se dit que ce sera plus pratique pour courir. Il est mené à l'école du village, tenu par une institutrice, une grande fille mince, blonde, avec un beau sourire. Il est tout de suite attiré par l'institutrice qui le change des femmes de la maison qui sont raides et strictes. L'école aussi lui plaît. Les élèves sont plus gais, la classe est claire, beaucoup plus claire que sa maison, et puis il y a des enfants avec qui il peut jouer. Très vite, il se fait des petits copains, bien sûr les plus turbulents de la classe. Ils se battent sans arrêt pendant les récréations. La classe est en division de 3 cours différents. Lui est chez les petits. Et le tien, les grands, qui ont trouvé un jeu, ils vont jeter des papiers dans la corbeille qui se trouve sous l'estrade pour voir les dessous de la maîtresse. Il en fait autant, mais ne voit rien qu'un embord de dentelle. Il est bon élève, car contrairement à la maison, l'école lui ouvre l'esprit. C'est Félicie qui le mène à l'école et le ramène à la maison. Mais au bout de quelques semaines, il lui demande de rentrer seule car elle veut partir avec ses copains. Félicie accepte. Alors, à la sortie de l'école, avec un groupe de garnements, il court la campagne avant de rentrer à la maison pour chaparder des pommes, chasser au lance-pierre, tuer les oiseaux ou simplement courir dans les ruisseaux. Revient à la maison en nage et sale. Félicie est obligée de laver tous les soirs. Marraine lui dit, c'est un vrai garçon celui-là. Un jour, dans la cour, un des copains lui demande « Qui est ta maman ?»«
Je n'en ai pas. » »«
Tout le monde a une maman qui s'occupe de toi. » »«
Félicie, eh bien c'est ta maman. Il n'y a que ta maman qui peut s'occuper de nous. »
Emmanuel réfléchit et voit toujours Félicie près de lui. Marraine, osant les épaules un jour de colère, dit « Il est bien toi celui-là !» Il sent les baisers et les caresses de Félicie. Il sent que Félicie doit être plus que sa sœur, car elle est la seule de ses sœurs à l'aimer vraiment et à s'occuper de lui. Les autres font comme s'il n'existait pas. Il garde pour lui ses pensées. Mais il devient plus tendre pour elle. Malheureusement, Félicie ne se rend pas compte de ce changement et est trop préoccupée par ses amours et ses jalousies. Le mois passe, Marraine se sent agacée par cet enfant exalté qui va et vient et crie dans cette maison de femme. Un jour, elle dit à Félicie, elle épluche ses pommes de terre à la cuisine. Il faut penser à l'avenir de cet enfant. Si on le laisse à l'école du village, il va devenir un vrai petit paysan sauvage. J'ai bien réfléchi. Je pense qu'il serait bien. Et ce serait bien aussi pour la famille qu'il aille dans un petit séminaire. Félicie rougit. Marraine lui dit, c'est qu'une école comme une autre. Enfin, un pensionnat où l'on apprend plus la religion. Et puis pense, tu deviendras prêtre, comme tu seras fier. Il n'y a que les prêtres qui sont de vrais hommes. Félicie se met à rêver et voit son fils en prêtre.
Alors c'est décidé. À la rentrée prochaine, il ira au petit séminaire à Lyon. Ma reine a fait le voyage et l'a inscrit. Le supérieur voulait voir l'enfant. Elle lui a dit qu'il avait pris froid et ne pouvait se déplacer. Pendant le repas de soir, qui mange à un salle à manger, ma reine informe Emmanuel de ce qu'elle a décidé pour lui. Il ne semble pas content du tout de quitter ses amis, la campagne. J'aimerais mieux rester ici, ma reine lui dit. Ce n'est pas un avenir pour toi de rester au milieu de ces paysans. Je ne veux pas être prêtre. Tu iras à l'école. Après, l'on verra. Qu'en penses-tu, Félicie? Je pense que tu dois obéir. Tu verras, plus tard, tu ne le regretteras pas. En fin septembre, après avoir embrassé Félicie, Marie et Rosalie part accompagnée de marraine avec une valise pour Lyon. Petit séminaire, il a vite fait de reprendre ses habitudes, c'est-à-dire de faire le diable. C'est un bon élève, mais très dissipé. La religion ne semble pas le toucher. La messe l'ennuie, l'instruction religieuse aussi.
Prétentieux. Vous écrivez par exemple Charles Péguy voit la cathédrale comme un phare grandiose.
Pendant qu'il est en pension, les trois femmes vivent toujours recluses entre elles. Ma reine, veillant sur ses courtisanes, elles lui sont toutes dévouées. L'année scolaire suit son cours. Il revient pour les fêtes et les vacances, mais il se sent de plus en plus étranger chez ses femmes. Pour Noël, il n'y a eu ni sapin, ni crèche, juste des oranges, du chocolat et un livre. Un condensé de la Bible. Elles reçoivent des notes trimestrielles qui sont guère reluisantes en discipline et religion. Mais ma reine pense que tout ça s'arrangera. La fin de l'année scolaire est arrivée. Elle est convoquée chez le supérieur à Lyon. Elle s'y rend.
petit séminaire, on l'a conduit au bureau du supérieur. Le bureau est une vaste pièce avec une table qui sert de bureau, remplie de piles de papier, d'un grand crucifix au mur, d'une bibliothèque et de deux chaises de paille. Le supérieur est un homme grand, sec, les cheveux blancs. « Asseyez-vous, madame. » Elle s'assoit. « Je vous ai fait venir, c'est pour vous dire avec regret, c'est que l'attitude de votre fils n'est pas compatible avec notre maison. » Ce n'est pas un mauvais enfant. Il travaille même bien à l'école, mais à part la religion. Et il est trop turbulent et l'on sent qu'il ne pourra jamais être des nôtres. Et puis il est préoccupé par des choses malsaines pour son âge. Il risque d'apporter le trouble aux autres. Si nous le gardions, ce serait dangereux et pour lui et pour les autres. C'est pour cela que je vous ai fait venir pour vous dire que nous ne pouvons pas le prendre l'année prochaine. Ma reine est effondrée et se dit « L'enfant du péché ne vaut rien. C'est de la graine de voyou. Monsieur le supérieur, il est encore jeune et c'est sa première année chez vous. Peut changer. Tenez-lui encore une chance. » Non, madame. Nous l'avons bien surveillé. Cet enfant n'a pas la place parmi nous. Faites-nous confiance. Nous avons l'habitude. Et puis, il est fort doué en études. Je suis sûr qu'il vous apportera toute satisfaction dans un collège. Il prend des papiers sur la table. Les lui tend. Voici ses papiers. Sonne. Un ecclésiastique est entré. « Conduisez, madame, au dortoir 4, où le petit Emmanuel doit l'attendre. » Elle se lève. « Au revoir, madame. » Et elle suit le prêtre. Le voyage jusqu'à Moutier est lugubre. Elle est furieuse. Arrivée à la maison, elle annonce à ses trois sœurs la nouvelle. Renvoyez. Qu'allons-nous en faire maintenant ? Rosalie dit. Puisqu'il est bon à l'école, mettons-le dans un collège et... faisons-en un avocat ou un médecin. Félicie dit, oui, pourquoi pas, ma reine. Médecin, médecin, c'est pas mal, il nous soignera. Mais en attendant, il va passer les vacances avec nous, malheureusement. Mais durant ses vacances, elle le voit guère, il est toujours dehors. Et il s'est fait des amis paysans des environs et les aide aux travaux des champs, tout en s'amusant. Il couche dans la salle à manger, on lui a mis un lit de camp. Un après-midi qu'il fait de l'orage, il est entré plus tôt que d'habitude. Ne trouvant pas les femmes
il est monté à l'étage. En passant devant la chambre de Félicie, il a entendu des gémissements comme une personne qui est malade. Il ne sent pas entrer, mais un œil au trou de la serrure. Et là, il voit sur le lit Marraine sur Félicie, toutes deux nues. Marraine caressant les seins de Félicie et à la main entre ses cuisses, Félicie poussant des petits cris. Emmanuel est surpris par ce qu'il voit mais comprend vite ce que ce doit être. Il est surtout étonné, pas par l'acte, mais par ce qu'il est fait par deux femmes. Cela le fait rigoler et se dit qu'elles sont cucues. Désormais, il voit Marraine et ses sœurs d'une autre façon. Il surprend des attouchements, des caresses, des baisers fugitifs. Et quelque chose lui dit que Marraine joue l'homme, il se dit. Ça ne m'étonne pas, avec la gueule qu'elle a, elle ressemble plus à un homme qu'à une femme. Mais sûrement pour ça qu'elle fait l'homme. Il est un peu triste de voir que Félicie, elle aussi, joue à ce jeu. Les vacances sont finies et Marraine l'amène à Lyon dans un collège. S'il pouvait être médecin, ce serait pas si mal. Sois sage et travaille bien, mon petit. Le temps passe. Emmanuel travaille bien. Il s'est élargi. L'ambiance du collège lui plaît mieux. Et de leur côté, les trois femmes vivent toujours ensemble, en vase clos. En vieillissant, elles finissent par se ressembler. Même toilette, robe noire, même coiffure, chignon bien tiré. Tout aussi maigre, l'on dirait quatre sœurs, vieilles filles. Lorsqu'elles vont à la messe, tout ensemble, les gens du village rient sous cap et disent « Voilà les corbeaux ». Elle ne parle à personne. Le temps passe et Emmanuel a 14 ans. Il revient passer ses vacances chez elle. À chaque fois qu'il entre chez elle, il est surpris par l'aspect d'un autre monde, fermé, austère et en même temps plein de sous-entendus, de secrets que l'on devine. Les pièces sont sombres, elles n'ont pas été refaites depuis longtemps, ça sent le renfermer. Marraine et Félicie préparent le repas à la cuisine. Marraine lui dit, il faut lui dire la vérité. Comment ? C'est sa naissance que tu es sa mère. Il vaut mieux pas. Nous sommes obligés, il arrive à un âge où il va avoir besoin de papier. Il vaut mieux que ce soit nous qui lui disons plutôt que qu'il la prenne comme ça.
Que va-t-il dire? Il dira ce qu'il voudra, mais il le saura. Tu vas lui dire quand? Lui diront ce soir. Après le repas, Marie-Reine et Félicie disent à Emmanuel de venir avec elles dans le salon. Elles ont quelque chose d'important à lui dire. Ils y vont. Et s'assoivent. Marie-Reine parle. J'ai une chose très importante à te dire. Tu vas être surpris, mais je vais être direct. Voilà. Vaut mieux que je te dise ça sans chercher dans phrase directement. Voilà, c'est au sujet de ta naissance. Félicie rougit. Marie-Reine continue. Tu es suffisamment grand maintenant pour l'apprendre. Voilà. Nous t'avons dit que ce n'était pas vrai. Manuel écoute avec intérêt, mais sans émotion. Ta mère n'est pas... Ta mère, enfin, voilà. Ta mère, c'est Félicie. Tes sœurs sont tes tantes. Tu comprends, nous avions caché cela parce que ta mère t'a mise au monde sans être mariée. Emmanuel se dit qu'il s'en doutait. Il sait comment se font les enfants, il dit. Et qui est mon père? Un homme pas très bien, il a quitté le pays. Il avait promis le mariage à ta mère et l'a laissé tomber. Pour éviter le déshonneur, nous avons dû cacher ton origine. Ici, il lui demande, les larmes aux yeux. Es-tu fâché? Est-ce que tu m'en veux? Emmanuel fait non de la tête. Elle se penche pour l'embrasser. Il se laisse faire. Il ne lui en veut pas, car il se dit qu'elle a dû accepter tout ça sans rien dire. Il se dit en riant lui-même, ma reine a dû être heureuse de l'avoir pour elle seule. Ma reine, c'est le mari de ma mère et de mes tantes. Quelle femme! Puis, les choses ont continué, sans que rien n'ait changé, sauf que Félicie essaie d'être plus tendre avec lui. Il la laisse faire. Ça lui fait du bien et sait qu'elle le fait pour racheter sa faute et se faire pardonner. Le temps a passé. Elles ont toujours vécu ensemble, amants et maîtresses, vieilles filles, sèches et fougueuses entre elles. Félicie se félicite de son fils. Ses études se sont bien passées. Il est devenu médecin à Lyon et marié. Il ne pense à son enfance qu'avec sourire et n'en veut pas à ses femmes. Il se dit qu'il s'en est très bien tiré et qu'elles ont une vie étrange, en partie à cause de sa naissance. Il va les voir de temps en temps avec sa femme. Félicie est heureuse et fière de son fils. Mais il y en a une qui est furieuse. C'est l'avorteuse du village, qui chaque fois qu'elle le voit, lui tend le poing. Elle est furieuse de le voir en vie et en bonne santé, et médecin en plus, médecin. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Marraine. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. C'était la deuxième partie de cette histoire.